Radio Okapi.
Merci d'écouter Radio Okapi, les 15h à Kinshasa. Voici un nouveau journal. Ouverture ce mardi à Kinshasa de la session inaugurale du Sénat. Le bureau provisoire qui est présidé par Pascal Kindelo est chargé de valider le pouvoir, élaborer et adopter le règlement intérieur et organiser l'installation du bureau définitif. Coup d'envoi à Mbujimayi des épreuves hors session de l'examen national de fin d'études professionnelles. Antoine Kipoulou, le ministre de la formation professionnelle, se réjouit de l'accroissement ces jours-ci des effectifs par rapport aux années précédentes. Notre invité, c'est le chargé des communications du Parc national de Virunga. Bienvenue, Bouende, parle de l'impact de la zone industrielle créée depuis 2 ans par l'alliance Virunga à Munigi pour protéger les ressources du parc. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonjour au micro. Pascal Masserica, mise en onde de Landry Beto. Ouverture ce mardi à Kinshasa de la session inaugurale du Sénat. Conformément à l'article 114 de la Constitution, le bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement congolais est présidé par Pascal Kindelo, le sénateur le plus âgé, assisté de Ivan Kazadi, 31 ans, et Moïse Ekumbu, 30 ans. Ce bureau se chargera de valider le pouvoir de la et d'adopter le règlement intérieur et d'organiser l'élection et l'installation du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Explication de Michel Kifinangoy.
Après l'appel nominal, puis l'identification du sénateur le plus âgé et les deux plus jeunes, le secrétaire général du Sénat installe le bureau d'âge, présidé par Pascal Kindelo, banquier et originaire du Congo central, assisté par Ivan Kazadi Kankonde et Moïse Ekumbu. Prenant la parole au perchoir du Sénat, le nouveau président du bureau provisoire rappelle les missions constitutionnelles du bureau d'âge, Pascal Kindelo Lumbu.
Nous voici en première session extraordinaire de notre législature. L'article 114 de la Constitution énumère 4 points constituant l'ordre du jour, à savoir l'installation du bureau provisoire vient de s'accomplir. La suite de nos travaux portera le point restant à savoir 1. La validation du pouvoir. 2. L'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. 3. Élection de l'installation du bureau définitif du Sénat. Je crois aux qualités, en l'expertise de chacun de nous.
Après ces mots, Pascal Kindelo, membre de l'UDPS Tshisekedi, suspend la séance après avoir promis la convocation incessante d'une plénière pour examiner les points à l'ordre du jour.
Merci Michel Kifinangoy. Dans la province du Kwilu, le chef d'antenne de la CENI et le logisticien de Massimanimba sont actuellement condamnés à 6 mois de prison ferme pour avoir délocalisé un centre de vote, tandis qu'un informaticien est acquitté faute de preuves. Le tribunal de paix poursuivait ces 3 agents de la CENI pour facilitation de la fraude électorale et abus de confiance lors des élections organisées l'année dernière. À Bandundouville, le compte-rendu Irène Bomaluzolo.
Lors de ces procès, le tribunal de paix de Massimanimba a disqualifié les infractions de fraude électorale et d'abus de confiance mises à charge des prévenus par les ministères publics, faute de preuves. Il a par contre requalifié les faits et a enfin retenu la délocalisation d'un centre de vote comme violation de la loi électorale commise par le chef d'antenne et le logisticien de la CENI Massimanimba, avons-nous appris des sources proches du tribunal. Tout en acquittant l'informaticien, le même tribunal a condamné ces deux derniers à 6 mois de prison et au paiement de 10 000 dollars américains à verser à la partie civile, à savoir la CENI, puis la somme de 500 000 francs congolais d'amende à l'État congolais pour avoir délocalisé ces centres de vote. Maître Olivier Mbangala est l'avocat des prévenus.
Pour nous, nous avons dit que le tribunal, le juge a bien rendu les droits, parce que c'était ça d'ailleurs l'objet de notre plaidoirie. Le poursuivre pour faciliter la fraude et pour abus de confiance, ça ne tenait pas. Mais comme il s'est avéré lors de l'instruction qu'il y avait un centre qui aurait fonctionné en dehors des liens convenus, là nous nous courbons, nous disons qu'il a bien radi les droits.
Il faut rappeler que ces condamnés ont déjà totalisé 2 mois depuis leur arrestation. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la fin ce mardi à Mbujimayi de l'atelier d'information et de vulgarisation de la stratégie de la décentralisation financière destinée aux députés provinciaux. Ces travaux de 5 jours ont été organisés par Encore, le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des finances en RDC. Reportage à Mbujimayi d'Esther Ndalafina.
Cette formation de 5 jours a permis aux députés provinciaux et à certains membres de l'Assemblée provinciale d'acquérir des connaissances sur la gestion des finances publiques. D'après Jean-Claude Moussas Magnong, coordonnateur provincial du projet Encore, le but est de s'approprier les procédures et les outils nécessaires à une gestion saine des finances publiques.
Spécifiquement, il s'agit de renforcer les capacités techniques des élus et de leurs collaborateurs sur le processus budgétaire. On est bien entendu par la loi relative aux finances publiques et ses textes d'accompagnement. Il est question de communiquer la vision du gouvernement contenue dans la stratégie de renforcement de la décentralisation financière. Et il y a autant d'innovations.
Le député provincial Henri Kapinga, élu de Mbujimayi, estime que cette formation leur a permis de connaître leur rôle.
C'est vraiment une formation très capitale pour nous permettre de bien entrer dans la cadence.
La députée provinciale Eugénie Chilanda affirme pour sa part qu'elle a acquis de nouvelles connaissances.
Je ne suis pas du domaine, moi je fais la santé publique. J'ai trouvé que c'était une formation qui a été très importante pour moi, puisque j'ai appris comment régler le budget, comment se déroule la chaîne de dépenses. Ce sont de matières qui m'échappaient.
Après cette formation, Encore prévoit de former également les membres du gouvernement provincial. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Revenons un instant à Mbujimayi où se tiennent les épreuves hors session de l'examen national de fin d'études professionnelles. La cérémonie a été présidée à l'hôtel Métropole par le ministre de la formation professionnelle. Antoine Kipoulou se réjouit de l'accroissement cette année des effectifs par rapport aux années précédentes. Esther Ndalafina.
La République démocratique du Congo aligne à cette édition plus de 63 000 candidats, dont près de 48 000 venus des centres de formation et près de 15 000 venus des instituts de formation professionnelle. Tous sont accueillis dans 425 centres de passation de ces épreuves. La province du Kasaï oriental, quant à elle, présente près de 800 candidats à ces épreuves hors session de l'examen national de fin d'études professionnelles. La ministre de la formation professionnelle a indiqué que les épreuves hors session qui débutent du 13 au 26 mai prochain sont constituées de la rédaction et des épreuves en situation d'intégration. Les candidats seront soumis aux épreuves de la session ordinaire au mois de juillet prochain. Antoinette Kipoulou se réjouit tout de même de l'accroissement des effectifs pour cette édition par rapport aux années précédentes où l'on a enregistré près de 9300 candidats en 2023, 7400 en 2022. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Au Maniema, non loin de là, 233 candidats, dont 90 femmes, participent depuis hier aux épreuves hors session de l'examen national de la formation professionnelle. L'inspectrice principale provinciale de ce secteur salue le nombre élevé des candidats pour cette année 2024. Les propos de Madame Colette Sifa Balelo ont été recueillis par Florence Kizalunga.
Aujourd'hui, c'est le début de nos épreuves hors session, l'ENAFEP 2024. Et nous avons réussi à examiner 233 candidats, dont 90 femmes, dans toute la province du Maniema. Nous avons 8 centres de passation. Nos épreuves de la hors session vont durer 2 semaines. Donc aujourd'hui, la rédaction, 2 jours de l'oral des français et 11 jours de la pratique professionnelle. La participation est massive cette année parce que les taux sont à la hausse. Les participants sont nombreux par rapport à l'année passée. Je voulais dire aux autres qui traînent encore les pas de venir car les métiers n'exigent pas la demande d'emploi.
Dans la province du Bazouélé, le personnel scientifique de l'Institut supérieur pédagogique ISP Bouta a suspendu les cours hier et mis en place un comité de gestion provisoire après avoir déchu les autorités nommées par le ministre des tutelles. Ces décisions ont été prises samedi lors d'une assemblée générale organisée au campus Zabéa de l'établissement. À Kisangani, le récit de Jacques Mkongolé.
Au moins 10 griefs sont mis à charge du comité de gestion de l'ISP Bouta. Ils sont consignés dans un mémorandum adressé au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire par le corps scientifique de cet établissement d'enseignement supérieur. Parmi ces griefs, on peut épingler le dysfonctionnement du comité de gestion, créant ainsi la paralysie de toutes les activités de l'ISP. La gabegie et malversation financière, le non-contrôle des agents dont certains seraient des doublons sur le listing de paye. Des révoqués continuent également à toucher les salaires. Autre reproche, le détournement des fonds destinés à l'achat des ordinateurs et des frais de mobilité des professeurs visiteurs. En réaction, le directeur général de l'ISP Bouta dit attendre la réponse de l'autorité de tutelle à qui le mémo est adressé. Cette dernière, dit-il, ne manquera pas de diligenter une enquête afin de vérifier la véracité des faits allégués. Toutefois, le professeur Gilles Gbagbou regrette qu'en ce moment, les étudiants soient pénalisés inutilement par l'arrêt des cours décidé par le personnel scientifique. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Autre nouvelle en plus bref, affrontement ce matin au Nord Kivu entre les FRDC et les rebelles du M23 autour de l'agglomération de Kikuku dans le territoire de Rutshuru. Pendant 7 ans, une accalmie s'observe au chef-lieu du territoire de Masisi au lendemain d'autres affrontements. Un calme apparent s'observe en ce moment à Minova après le largage de 5 bombes hier sur cette cité du territoire de Kalehe. L'administrateur du territoire de Kalehe affirme à Radio Okapi que ses administrés vaquent à leurs occupations en dépit de l'inquiétude sur leur sécurité. Et Thomas Bakenga dénonce cependant la violation grave du droit international humanitaire qui mérite une sanction de la communauté internationale. C'est ce que nous raconte à Bukavu Jean Kassami Birali Birou.
La psychose est encore perceptible au sein de la population de Minova en territoire de Kalehe dans la province du Sud-Kivu. L'administrateur du territoire de Kalehe confirme que ces engins mortels ayant entraîné 2 morts provenaient de Masisi dans la province voisine du Nord-Kivu sous occupation de M23. Aujourd'hui, la population a vaqué à ses occupations sous alerte maximale. Les parents veillent surtout à leurs enfants. L'une des bombes étant tombée hier à côté d'une école quelques instants après la sortie des classes. Les sinistrés de la catastrophe du 4 mai 2023 se sentent doublement insécurisés. Certains commencent à faire mouvement vers Nyabibwe, où ils sont hébergés au sein de l'école primaire Kayinga de la communauté baptiste 3e CFCA. Nos sources de l'Église catholique indiquent que ces déplacés sont obligés de quitter les lieux où ils avaient élu domicile après la catastrophe de Bushushu et Nyamukubi. C'est donc eux qui sont encore une fois aujourd'hui en débandade à cause de la guerre. La société civile de Kalehe demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de stopper la progression des rebelles vers les zones non encore occupées. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Et puis, les habitants de la ville de Kalemie dans la province du Tanganyika ont manifesté ce matin pour protester contre la mort d'un jeune commerçant tué dimanche à son domicile par des bandits dans la commune de Lukuga. Le président du mouvement citoyen Parlement des Bouts sans tabou met les autorités devant leurs responsabilités. Nathan Mugisho s'est confié à Paul Emunanga.
L'une des victimes de l'insécurité, notamment M. Mugisho Chombo, un jeune âgé de 22 ans qui a été fusillé avant-hier à son domicile par des bandits à main armée, il est décédé à l'hôpital Undugu. Et ça touchait la colère des commerçants, parce que lui-même petit commerçant, ça touchait la colère de toute la population. Et c'est ainsi qu'une marche de colère spontanée pour dénoncer l'insécurité a eu lieu depuis l'hôpital Undugu sous la place Kisebwe jusqu'à la place Maendeleo. Et nous étions en train de marcher en scandant les chansons de mandat à l'État de prendre ses responsabilités, et dont la première des responsabilités, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. La population, le marchand, n'ont pas voulu voir les hommes en uniforme. Comme qui dirait, on en a marre d'être victime de l'insécurité, mais les services de sécurité ne font absolument rien. L'État ne fait absolument rien. On a marché et maintenant là, on a laissé les corps de cette victime à la morgue de l'hôpital général de référence de Kalemie.
Actualité internationale.
fin à Bamako du dialogue intermalien après un mois de discussions qui ont été organisées par les autorités de transition. 300 recommandations ont été formulées à l'occasion, notamment sur la prolongation de la transition dont la durée est estimée à 5 ans. Les partis politiques, quant à eux, ont dénoncé un grotesque piège politique orchestré actuellement par les autorités de transition pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et puis l'Union européenne a fait part ce matin de son inquiétude à propos des récentes arrestations de plusieurs figures de la société civile en Tunisie, soulignant que la liberté d'expression et l'indépendance de la justice constituaient le socle de son partenariat avec Tunis. Des éclaircissements sur les raisons de ces arrestations ont été demandés localement par la délégation de l'Union européenne aux autorités tunisiennes. Deux chroniqueurs connus en Tunisie ont été placés en détention dimanche après-midi pour des critiques sur la situation du pays au lendemain de l'interpellation d'une avocate pour des motifs similaires.
L'invité.
Notre invité, c'est le chargé de communication du Parc national de Virunga. Bienvenue, Bouende, parle de l'impact de la zone industrielle créée voici 2 ans par l'alliance Virunga à Munigi pour protéger les ressources du dit parc. Il s'entretient avec Bernard Danyangi.
Monsieur, bienvenue, Bouende, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que le zoning qui est juste à côté de Goma ici contribue à quel niveau en fait à impacter sur la conservation ou les menaces sur la conservation du parc?
Il faut d'abord comprendre que de manière globale, le parc national de Virunga, entre autres menaces, il y a la situation de pauvreté que vivent les populations riveraines. Et cette situation de pauvreté, justement, a fait que pendant plusieurs années, le parc national de Virunga a été la principale source de subsistance pour ces populations-là. Et ça a justement cristallisé toutes les actions dévastatrices à l'encontre de la biodiversité du parc national de Virunga. Et donc, la réponse qui a été apportée, il a été double, c'est dans le cadre de l'Alliance Virunga, où d'un côté, la protection de la biodiversité, la faune et la flore du parc, mais de l'autre côté, il y a eu un travail qui a été fait dans le cadre de la promotion du développement socio-économique en faveur des populations. C'est comme ça que, après l'énergie, il y a eu justement tous ces programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui a été mis en place, justement la mise en place de parcs économiques qu'on appelle communément zoning, que vous venez de visiter, justement de ces zonings qui sont des espaces qui sont aménagés afin d'abriter les entreprises, les transformations de production, afin justement de permettre que ces entreprises s'épanouissent, qu'ils se développent et que justement ces entreprises soient de piliers de notre vision de la création de richesses et de la réduction de la pauvreté. Actuellement, il y a 2 parcs économiques qui sont opérationnels. Il y a un parc à Mutuanga et le parc qui est à côté de Goma à Nyiragongo. Et ces 2 parcs économiques accueillent actuellement de grandes entreprises.
Et cela contribue à quel niveau, en fait, jusqu'à présent, selon vous?
Alors, la contribution, on ne peut pas l'évaluer de manière isolée, en prenant seulement les parcs économiques. C'est pourquoi je voulais remettre ça dans le contexte global. Mais jusque-là, nous pensons que les parcs économiques sont en train de très bien jouer leur rôle. Ça veut dire que ces parcs-là favorisent l'installation des entreprises, ces installations qui créent de l'emploi et ces entreprises qui créent de la richesse. Et quand vous regardez, par exemple, le parc économique qui est autour de Goma et les nombres d'entreprises qu'il y a, vous comprenez que derrière, c'est des personnes qui sont employées là-bas, derrière, c'est des personnes qui voient leurs revenus augmenter. Et ces personnes-là, elles ne sont peut-être plus susceptibles de constituer une menace sur les parcs. Mais un deuxième aspect, c'est que ces parcs-là favorisent le développement d'une économie au niveau local. Donc, il y a cette industrie qui se développe, c'est toute l'économie locale qui se développe. Et d'une manière ou d'une autre, c'est en train d'impacter sur la réduction de la pauvreté. C'est en ce sens que ça aide dans la conservation du parc. Parce que quand on parle de menaces sur les parcs, il y a par exemple des menaces qui sont liées à la présence, l'activisme de groupes armés. Ces groupes armés se constituent généralement grâce à une jeunesse qui est désœuvrée. Et plus il y a de l'emploi pour la jeunesse, moins il y a des personnes qui seront susceptibles d'aller faire partie de ces groupes armés-là. Ils sont à la base de tous les crimes environnementaux que nous subissons actuellement dans le parc. Mais c'est la même chose avec toutes les pressions qu'il y a sur le parc, que ce soit les déboisements, la carbonisation, la pêche illicite qui s'opère au niveau du lac Édouard et toutes les autres pressions sur le parc. Regardez les cas des envahissements du parc pour l'agriculture. Nous essayons, à travers le développement de cette économie locale, de donner une alternative à ces gens qui vont forcément chercher des espaces dans les parcs afin de vivre de l'agriculture.
Qu'est-ce que le parc national de Virunga donne comme apport pour accompagner ces entrepreneurs?
Alors, c'est encore une fois un package complet. Ça veut dire quand un entrepreneur va s'installer au sein des parcs économiques du parc national de Virunga, ça lui permet d'avoir accès à l'électricité. C'est parce que ce parc-là, les aménageons et l'électricité est directement disponible à l'intérieur. Deuxième aspect, il y a cette facilité d'accès au crédit. Ça veut dire pour toutes les entreprises qui sont installées dans le parc économique du parc, elles ont cette facilité d'accéder au crédit grâce au programme qui a été mis en place en partenariat avec Equity BCDC. En plus de cela, ces parcs économiques offrent la sécurité, l'accès à l'eau et des possibilités de partenariat entre les entreprises.
Monsieur, bienvenue, bon dieu, merci.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chargé de communication du Parc national de Virunga, Bienvenue Bouende, interrogé à Goma par Bernard Denyangi. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté.